La société civile de Béni décrète une semaine ville morte pour dénoncer des attaques répétitives sur la ville et ce qu'elle qualifie de silence complice des autorités congolaises ainsi que de la communauté internationale. Cette décision intervient au lendemain du massacre de 18 personnes par les ADF dans la commune de Rouenzori. Quelle analyse faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Julien Paloukou. Bonsoir, monsieur le gouverneur.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Et bonsoir à toute la République démocratique du Congo ainsi à tous qui nous écoutent.
Merci, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Général Bernard Comis, bonsoir.
Bonsoir monsieur et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Vous êtes commandant adjoint de la force de la MONUSCO, professeur Arsène Mouaka, bonsoir.
Bonsoir monsieur Alain.
Vous êtes député national de l'opposition, élu de la ville de Béni au Nord Kivu. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Au Nord Kivu, la coordination de la société civile et forces vives de la ville de Béni vient de décider de plusieurs actions pour dénoncer les attaques répétitives sur la ville de Béni. Par ces actions, la société civile dit aussi dénoncer le silence coupable du gouvernement congolais et de la communauté internationale. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Christian Mapendano qui est sur place à Béni. Christian Mapendano, bonsoir.
Bonsoir Alain Yung.
Dites-nous Christian, comment peut-on décrire présentement la situation dans la ville de Béni.
Oui, la situation dans la ville de Béni est en tout cas tendue. À la suite de la journée ville morte décrétée par la société civile, toutes les activités sont restées paralysées ce lundi. Pas de transport, pas de marché et donc c'était vraiment une ville fantôme. D'ailleurs, la situation risque de s'empirer parce que les composantes de la société civile réunies viennent de décider d'étendre ces journées de deuil jusqu'au vendredi prochain avec possibilité d'autres actions d'envergure au cas où le ministre de la Défense ne se présentait pas à Béni comme l'exige la société civile afin de juguler la question d'insécurité vécue dans cette partie de la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, au moins 18 personnes parmi elles, 14 civils et 4 militaires ont été tués lors de l'attaque de ce week-end, et puis toutes les couches de la population ont été touchées. Nous avons par exemple un chef de travaux et une étudiante qui ont été tués, des taximen, des commerçants et d'autres couches de la population qui sont également concernées. Disons que c'est vraiment tout Béni qui est en deuil, ce qui fait que les étudiants étaient dans les rues et ils menacent même de se prendre en charge.
Christian Mapendano, qu'est-ce qui explique que les organisations de la société civile décident de durcir leurs actions?
Disons d'abord que la peur est vraiment généralisée au sein de la population parce que toutes les dernières attaques des ADF se sont passées dans la ville et d'ailleurs celle de ce samedi était à moins de 300 mètres du rond-point Nyamwisi qui est le centre même de la ville de Béni. Aujourd'hui, les acteurs de la société civile parlent des 6 quartiers sur 8 de la commune de Rwenzori qui sont actuellement occupés par les ADF. 18 écoles de cette commune n'ont jamais ouvert leurs portes depuis la rentrée scolaire suite à cette situation. Et si seulement était encore fonctionnel avec un faible effectif. À ce jour, on compte plusieurs déplacés internes dans la ville qui sont dans des familles d'accueil sans assistance, dans des quartiers plus ou moins sécurisés. Les champs de Mayango, ce qui constitue le poumon agricole de la ville de Béni, ne sont plus accessibles à la population depuis plusieurs mois maintenant. Et puis, désormais, c'est presque chaque week-end que les ADF lancent des attaques. La société civile alerte souvent, mais on n'arrive toujours pas à maîtriser la situation. Ce qui fait que les attaques se sont déplacées de la forêt de Mayango, c'est où on s'est battu dans le parc, et aujourd'hui on progresse vers le centre-ville. La société civile pense que les autorités sont complices et que la situation de Béni ne les intéresse vraiment pas.
Et pour terminer, que disent effectivement les autorités face à cette situation? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises?
À ce stade, Alain, aucune mesure officielle n'a été annoncée par les autorités politiques, mais au niveau de l'armée, les autorités militaires disent que des mesures et des stratégies ont été arrêtées, mais elles ne peuvent pas être annoncées au grand public. Par contre, tout le monde dénonce le fait que les attaques des ADF sont souvent simultanées ou précédées par celles des Mai Mai, soit à Lubero, soit à Béni. Et donc, il faut noter que pour la société civile, en tout cas, les opérations Sokola 1 ont déjà prouvé avaient leurs limites et qu'il était temps qu'on procède à un remplacement de ceux qui ont prouvé leur incompétence pour sécuriser la ville et les territoires de Beni, victimes de massacres de civils depuis plus de 4 ans maintenant.
Merci Christian Mapendano, bonne soirée à Beni où vous vous trouvez.
Merci, bonne soirée à vous également Alain Irung et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, quelle est la situation qui prévaut en ce moment où nous parlons dans la ville de Beni?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais saluer le général ainsi que l'honorable député. Je pense que votre collègue Christian Mapendano vient de faire la description d'un tableau très très sombre. Et j'ai allé dire tout à l'heure que la situation à Beni est vraiment très très inquiétante. Voilà pourquoi nous nous associons tout d'abord aux douleurs que ressent cette population. Et c'est pourquoi au-delà du message de compassion et de condoléances, je voudrais tout autant adresser à la population de Beni un message de réconfort. Et surtout un message de réconfort à toutes ces familles qui ont été éplorées. Il est vrai, la situation est très très grave. Il est vrai que l'armée et la police ont la responsabilité de la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais face au drame qui ne finit pas, c'est tout à fait normal que l'espoir s'amenuise, que les cœurs sont brisés. Mais à mon niveau, je pense que les autorités, aussi bien civiles que militaires, ne doivent pas baisser les bras, parce que sinon ce serait la catastrophe. Imaginons par exemple que toutes les autorités se découragent, que toute l'armée recule, eh bien la suite est connue de tous. Et voilà pourquoi moi je continue à dire que comme tous les autres, je suis autant touché par ce qui se passe à Beni. Et c'est pourquoi d'ailleurs je me suis armé de ce devoir de responsabilité pour parler à la radio Okapi, pour accepter l'invitation, parce qu'ils ne seront pas nombreux ceux qui sont responsables de devoir assumer cette charge de parler lorsqu'il y a des morts dans une province comme la nôtre. Donc la situation n'est pas très bonne, elle est inquiétante et ça nous interpelle en tant qu'autorité publique. Et c'est la raison pour laquelle le cri qui a été lancé aussi bien par la société civile que par nous-mêmes, que par toutes les autorités, ces cris-là sont arrivés à destination. Et je peux vous annoncer qu'à l'heure qu'il est, le chef de l'armée est déjà à Beni pour devoir prendre à bras le corps les problèmes.
Monsieur le gouverneur, on ne va pas faire un bilan macabre de ce qui s'est passé, mais avez-vous des précisions par rapport à ce bilan, parce qu'il y a d'autres sources qui parlent de plus d'une trentaine de morts?
Non, il est trop tôt, à mon sens, de devoir donner un bilan définitif. C'est une attaque qui a eu lieu le samedi. Eh bien, les corps qu'on a réussi à compter, parce que ce n'est plus un secret, c'est au total 18, y compris les militaires. Mais encore, comme vous le dites, on ne va pas faire un bilan macabre des morts. Nous attendons effectivement que tout soit mis au clair. Eh bien, on ne pourra pas cacher le bilan, parce que s'il s'agit de 20 ou de 30, on ne peut pas cacher le bilan parce qu'il y a des familles qui sont frappées.
Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'échec des opérations militaires, comme le dit la société civile, monsieur le gouverneur?
Moi, je pense que les cris de la société civile, c'est un cri de cœur que toute personne placée dans les mêmes conditions lancerait. Ce serait d'ailleurs anormal si on n'attend pas la population, pas seulement de Beni, mais de la République démocratique du Congo, en train de hausser la voix pour dire « Eh bien, ça ne marche pas ». Mais à mon sens, je crois que une autre chose, c'est de devoir évaluer l'efficacité de la méthode. Si la société civile dénonce la méthode jusque-là inefficace utilisée par l'armée pour stopper le massacre, elle ne doit pas non plus recourir ou utiliser la méthode qui serait foncièrement aussi inefficace. Parce que quand on dit, par exemple, on fait 5 jours sans aller, déjà vous savez qu'on n'a pas à manger à Beni, et la population a quitté ses champs, tout le monde est concentré dans la ville, et à cela vient s'ajouter le virus à Ebola qui stoppe la circulation des personnes. Eh bien, lorsqu'on demande encore aux gens de ne pas travailler avec toutes ces souffrances qui sont déjà connues, c'est ajouter à ces souffrances les plus grandes souffrances à la population de Beni. Donc moi, je pense que comme la maison est en train de brûler, la sagesse nous renseigne ou nous enseigne que quand la maison brûle, nous devons cesser de querelles entre nous et nous focaliser sur comment nous devons éteindre le feu pour que la flamme ne puisse pas aller jusqu'à brûler la maison du voisin. Donc je crois que c'est cela qui est important. Les méthodes, on peut les utiliser, mais pour autant qu'elles n'aideront pas à résoudre les problèmes, je crois qu'il y a lieu de les abandonner pour davantage nous focaliser sur celles qui peuvent nous amener à pouvoir éradiquer ce fléau.
Monsieur le gouverneur, là vous faites allusion à ces actions que la société civile a décrétées, notamment une semaine de ville morte, mais en ce qui concerne les opérations militaires, est-ce qu'on peut affirmer, sans être contredit ce soir, qu'elles ont montré leurs limites?
Je l'ai dit sur votre radio tout à l'heure que pour autant qu'il y a des morts, nous ne pouvons pas dire que l'armée a déjà réussi à éradiquer la menace. Eh bien, on l'aurait dit, on l'aurait affirmé si effectivement la menace aurait été éradiquée. Mais aujourd'hui, les efforts, on ne doit pas s'en douter, eh bien, il y a des efforts que l'armée a pu mener dans les temps depuis 2014. Il y a des moments où à Beni, on a fait 3 mois, on a fait 6 mois, sans qu'il y ait ce genre de massacre. Mais curieusement, on sent que la menace n'a pas été éradiquée. Et je l'ai dit, il y a lieu de faire un coup d'arrêt pour que le gouvernement, à travers ces structures, puisse faire une évaluation sans complaisance et dire est-ce que les méthodes qui ont été utilisées sont jusque-là efficaces pour arriver à bout de ce terrorisme. Parce qu'il ne faut pas qu'on réduise la question des Beni. C'est cela peut-être ce que je vois dans la mémoire collective. Il ne faut pas qu'on réduise la question des EDF seulement à Beni. Je crois que l'erreur aussi que nous avons faite tous, société civile, gouvernement, armée, et tout ce qui parle de Beni, c'est d'avoir localisé la situation des EDF comme Merci. Étant sectorielle, et ne pas la considérer comme une situation qui mérite une attention beaucoup plus générale.
Merci, Monsieur le Gouverneur. Je reviens à vous tout à l'heure. Général Bernard Comis, vous êtes commandant adjoint de la force de la MONUSCO. Peut-on parler d'un aveu, d'un échec de la part et de la MONUSCO et du gouvernement congolais?
Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je souhaite m'associer aux mots de compassion et de tristesse exprimés par Monsieur le Gouverneur Paluku. Pour nous aussi, MONUSCO est militaire. Il est extrêmement pénible de vivre des moments pareils et je m'associe à la douleur de toutes ces familles et je les assure au nom de la MONUSCO de notre soutien et de notre compassion dans ces heures difficiles, les familles des militaires et les familles des civils bien sûr. Je ne parlerai pas d'échec. Un échec se mesure sur le long terme et il se mesure sur le fait qu'une... Une stratégie ne porte pas les fruits attendus ou les effets espérés. Ça fait effectivement très longtemps qu'avec nos partenaires militaires congolais, nous affrontons cette menace des ADF, plusieurs années maintenant. Nous réévaluons très régulièrement le mode de fonctionnement et les modes opératoires que nous employons pour contrer cette menace et éradiquer ce groupe nuisible. Ce qui s'est passé ce week-end et ce qui est arrivé aussi malheureusement dans des circonstances précédentes n'est que la dramatique traduction de la difficulté dans laquelle nous avons à contrôler un terrain qui est difficile avec un ennemi qui a un mode opératoire qui vient du fait qu'il maîtrise cet environnement de manière particulièrement habile. Nous, la MONUSCO, nous réévaluons régulièrement notre mode de fonctionnement et notre mode de travailler. Et actuellement, ce n'est pas quelque chose de secret. Suite aux travaux qui ont été menés l'année dernière avec nos partenaires de la SADC en particulier, nous avons très clairement identifié la nécessité d'avoir des forces mieux préparées au combat dans cette zone de jungle, dans cette zone très difficile.
Alors, Général, comment vous expliquez le fait, par exemple, que dans une zone aussi surmilitarisée que Beni, les combats quittent la forêt vers le centre-ville?
Les combats se sont effectivement rapprochés de la zone de Beni et ce dramatique incident de samedi dernier en est la preuve. Ce n'est pas parce que les combats se sont rapprochés qu'on doit considérer que maintenant c'est un fait établi et que Beni restera sous la menace, je dirais, proche de ce groupe ADF. Je ne pourrais pas développer ici ce que nous préparons en liaison avec nos partenaires militaires des forces armées congolaises, mais nous déployons aujourd'hui des efforts soutenus ensemble pour pouvoir ramener cette menace à un autre niveau et surtout la contenir. Il est pour nous absolument indispensable que le travail que nous avons entrepris avec les militaires congolais depuis de longs mois maintenant se poursuive, dans la mesure où ils connaissent aussi le terrain, ils ont cette connaissance du milieu que des unités de chez nous, qui tournent assez fréquemment, ont moins. Donc il faut qu'on continue à travailler ensemble, qu'on continue à échanger le renseignement. Mais au-delà de ça, il faut aussi que les populations qui sont hélas les premières victimes continuent à mettre en œuvre tout le système d'alerte communautaire que la MONUSCO a déployé dans cette zone depuis des années. Je rappelle qu'il existe un réseau WhatsApp, un groupe de WhatsApp qui permet d'alerter très rapidement. Pour nous, c'est d'abord là, je dirais, le gage d'être plus réactif ou plutôt plus proactif. À chaque fois qu'on intervient après, c'est bien, mais ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire. Il faut que l'information sur la menace puisse nous arriver suffisamment en avance pour qu'on puisse prendre des dispositions et empêcher à la violence de se développer. Et ça, c'est vraiment l'effort que nous souhaitons pouvoir continuer à engager avec l'appui des populations qui vivent dans cette région-là, car nous travaillons pour elles d'abord. Et donc, je lance cet appel de vraiment faire vivre ces réseaux d'alerte communautaire. Nous avons des exemples où nous sommes intervenus avec suffisamment de préavis, puisque nous avons été alertés, et nous avons pu empêcher le développement de la violence. Voilà, donc c'est un travail, je dirais, d'un effort collectif, et c'est peut-être aussi une part de la révision de cette stratégie qu'évoquait Monsieur le Gouverneur tout à l'heure. Chacun doit regarder ce qu'il est nécessaire de faire maintenant pour être plus efficace ensemble.
Alors, Général Comis, revenons sur l'identité des assaillants. Jusque-là, on continue à parler des ADF. Est-ce qu'il y a une certitude qu'il s'agit véritablement des ADF ou il s'agit d'autres forces?
Je ne sais pas si l'essentiel du débat est d'identifier et de nommer un assaillant. L'essentiel du débat pour nous, c'est de neutraliser un groupe armé et de neutraliser ceux qui sont les acteurs de la violence. Alors, il existe un débat autour du terme ADF. Je ne souhaite pas entrer dans ce débat qui est, à mon sens, un débat stérile. Pour nous, l'essentiel, c'est d'identifier où sont les bases de l'adversaire et de pouvoir le contrer, le chasser et le neutraliser. C'est difficile, mais c'est ce que nous faisons au quotidien.
Mais est-ce qu'on ne combattrait pas mieux un ennemi qu'on aurait bien identifié ?
Non, c'est pas parce qu'on lui donnera un nom ou qu'on appellera cet ennemi Pierre-Paul ou Jacques que cela changera quelque chose. Nous, militaires, notre objectif c'est, nous avons un adversaire en face de nous, sa zone a été identifiée, son mode opératoire est connu, il s'agit pour nous maintenant de le contrer avec les moyens appropriés.
Professeur Arsène Mouaka, vous êtes député national de l'opposition et élu de la ville de Béni au Nord Kivu. Comment vous analysez, vous expliquez ce énième massacre?
Je voudrais placer trois éléments. Mais avant de les faire, je voudrais m'associer au général et au gouverneur pour présenter toute ma compassion et présenter mes condoléances à la population de Béni et à l'armée nationale pour des morts de trop qu'on a bien observées ce week-end. Je voudrais d'entrée de jeu dire que, en fait, l'attaque de samedi, c'est une attaque qui nous permet de dévoiler ce qui est longtemps resté secret des polichinelles, ce qu'il y a de plus en plus, depuis 4 ans, des espaces entiers du territoire national qui sont évacués des populations pour que les populations ne puissent pas les habiter. C'est des espaces entiers qui sont en fait abandonnés par des populations pour que la population ne puisse pas les cultiver. C'est des espaces d'élevage qui sont abandonnés. Et quand vous circulez dans toute cette région, notamment dans la ville de Béni, et même dans les territoires de Béni, vous allez à Kokola, vous allez à Maïmoya, vous allez sur toute cette route qui conduit à Nitouri, vous constaterez que des maisons sont totalement abandonnées. Abandonnées. Et ce spectacle est en train de s'étendre dans la ville de Béni. Aujourd'hui, environ 45% de la ville de Béni n'est plus habitée par la population. Quand vous allez à l'est de la ville, on cite beaucoup la commune de Rwenzori, dans des quartiers, des cellules comme Bouili, Bouiti, Kasinga, Bel Air, et ainsi de suite. Il y a plus de gens, j'en reviens. J'étais en vacances, j'ai eu le temps de tourner l'avant-midi, parce que le soir c'est dangereux, en fait l'après-midi c'est dangereux. Il y a l'armée, il y a la MONUSCO, il y a plus de population. Et c'est de ces coins que vient l'ennemi généralement. Parce que la route qui conduit vers Mayango, c'est vers ce côté-là. Et donc, il n'y a plus de gens. Et si on peut trouver une ou deux personnes, c'est pour essayer de voir si on peut trouver à manger dans le jardin de la famille et rentrer très vite, avant 15 heures, rentrer dans l'ouest de la ville où on fait face à Ebola, puisque Ebola se trouve aussi à l'ouest de la ville de Beni. Et donc, on a comme ça une population qui est coincée dans une ville.
Prise en étau.
Prise en étau, justement, où on ne peut pas aller au champ, c'est la principale activité. On ne peut pas faire du commerce sur les routes. Il y a les sécurités, Ngite et autres, Kichanga, sur la route qui conduit à Kasindi. Et finalement, il n'y a plus de vie. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça date de longtemps, c'est le quotidien. Et même nous-mêmes, les officiels, je suis député national, quand j'y vais, ma sécurité est aléatoire. Celle des autorités, les ministres et tous les autres, même du gouverneur, se trouvent à danger. Les amis qui sont venus nous assister de la communauté internationale en matière d'Ebola, eux aussi sont à danger. Les éléments de la MONUSCO sont à danger. Et donc, on vit ça et on oublie. Et quand il y a des attaques, quand il y a des morts, il n'y a aucune réunion du gouvernement de la République. Il n'y a aucun message du gouvernement congolais de compassion. Il n'y a rien. C'est comme si de rien n'était.
Et donc la population se sent complètement abandonnée.
Complètement abandonnée. C'est comme ça que vous ressentez un sentiment de révolte. Les gens sont presque révoltés de telle sorte que quand on donne le bilan, vous avez suivi, on donne le bilan de la population et de l'armée. Mais combien de cet ennemi sont tombés? Combien? Et donc rien. L'ennemi est mystérieux. Et de telle sorte que lui, il fait des morts et jamais des morts de son côté. Et ça fait réellement un problème. C'est l'ennemi qui impose les rythmes du combat. C'est lui qui dit quand on doit se battre et comment on doit se battre et où on doit se battre. Et on reste dans des positions à l'intérieur de la ville et finalement la ligne de combat se transpose de la forêt, c'est-à-dire du parc national de Virunga, jusqu'à l'intérieur de la ville. Et là, on était à 700 mètres du centre du principal carrefour de la ville de Beni. Donc, c'est déplorable.
Alors, quand on parle de l'identité des assaillants, le général Comis estime que c'est un débat stérile. Quel est votre avis?
Bon, je crois que lui, comme militaire, c'est un débat stérile, parce que lui, qu'importe l'ennemi, il a la charge de le frapper et de le mettre hors d'état de nuire. Mais pour ceux qui gèrent la population, comme pour le gouverneur, par exemple, qui gère au quotidien cette population. Mais quand la population dit, mais l'ennemi là, il vient, il tue, il disparaît, lui ne meurt jamais.
C'est un fantôme.
C'est un fantôme et finalement, ça crée des problèmes dans les relations entre l'armée et la population. Ça crée des problèmes. Et donc, sur le plan politique, nous qui sommes politiques, nous avons besoin d'être sûrs qu'on nous montre un monsieur qui est aussi tombé sur le combat pour qu'on soit sûr que les gens sont battus.
Alors, on en a attrapé quelques-uns dans le passé. Il y a même des procès qui ont été organisés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Bon, je ne voudrais pas trop parler de ces procès, puisque dans ces procès, nous avons des chefs coutumiers qui sont à Nguenga. Nous avons déjà des milliers qui sont arrêtés, ainsi de suite. Bon, on aurait bien voulu voir, comme dans ces massacres ici, que l'on a mis la main sur un monsieur qui a égorgé. Il a laissé sur les mains, dans sa chemise, et on dit « voici un égorgeur ». On aurait bien voulu, et donc les gens attendent, ils continuent à attendre ce jour-là où on va voir un monsieur qui venait à peine d'égorger qui est jugé. Et donc le procès a été plus compliqué que ça.
Et est-il temps, plus que temps aujourd'hui, professeur, de réévaluer la stratégie appliquée et par le gouvernement et la MONUSCO?
Je crois que le résultat qui est là évalue déjà. Le résultat évalue. Le résultat, il est mauvais. Dès lors que même le maire de la ville a dit hier que l'ennemi est localisé. On connaît là où il est dans le parc national de Virunga. On connaît. Et donc, l'alerte. Mais M. l'abbé de la paroisse de Païda a dit sur les médias locaux pour dire qu'il avait alerté 2 heures avant pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et 2 heures après, les gens sont morts. Donc, que la collaboration, en fait, qu'il y ait la collaboration avec l'armée, qu'il y ait, je ne sais pas, la localisation de la... Tout est là. Et on est comme dans une amnésie où on laisse les gens mourir
Et on se réveille après.
Et on se réveille après.
Voilà. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Antoine Lumba là, à partir de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je me rends compte que la situation des tueries de Beni, c'est une situation artificielle qui est orchestrée par les autorités actuelles. Dans la mesure où tout se passe sous la barbe de ce dernier, sans aucune intervention palpable sur le terrain. Nous savons très bien que le rôle d'un gouvernement est de protéger les citoyens et ses biens. Et depuis un certain temps, il y a un silence vraiment des morts qui voit une certaine complicité par rapport à toutes les tueries. Il faudrait qu'il y ait vraiment des élections apaisées, inclusives et transparentes pour sanctionner nos autorités actuelles pour une alternance politique au niveau de notre pays.
Monsieur le gouverneur, est-ce que vous comprenez cette frustration?
Je comprends très bien, Monsieur Lumba, là, qui voudrait parler d'une situation artificielle et que peut-être elle est orchestrée par les autorités. Moi-même qui parle, je suis originaire de cette partie. C'est-à-dire que je souffre doublement en tant qu'originaire de cette partie parce que j'ai des membres de famille qui tombent, mais également en tant que gouverneur parce que j'ai un devoir de responsabilité, de redevabilité vis-à-vis du peuple. Vous imaginez par exemple qu'aujourd'hui, le président de la République, Joseph Kabila, se trouve à New York. Il doit s'adresser aux Nations Unies. Il doit prendre la parole devant la tribune des Nations Unies. Et que par exemple, les gens disent que non, lui, il veut laisser derrière lui un massacre. Il veut tuer les gens pour qu'il ait un démon à dire devant les autres chefs d'État aux Nations Unies. Moi, je crois que c'est ça banaliser effectivement la situation de Beni. La situation de Beni est au-delà de ces questions politiques, où on croit que ce sont les autorités politiques qui sont en train d'orchestrer ce qui s'y passe. Vous imaginez qu'un gouverneur, qu'un président ou qu'un ministre volontairement envoie des gens pour dire « allez tuer telle population ». Alors que tout le monde sait que ces autorités-là tirent leur légitimité de cette population-là. Donc moi, je pense que c'est contradictoire. Le problème se trouve plutôt ailleurs et nous devons les chercher, comme l'a si bien dit le général et si bien que le professeur Arsène Mouaka. La menace est tellement grande qu'au lieu de nous quereller, au lieu de nous tutoyer, c'est toi ou c'est moi, ce n'est pas moi, que nous disions, eh bien, les méthodes ont-elles réussi ou n'ont-elles pas réussi? Parce qu'à chaque fois que l'armée a pu faire des preuves, elle a pu attraper même certains EDF de nationalité étrangère. On les a montrés, je me rappelle qu'il y a quelques mois, on a montré les corps de près de 14 EDF à Beni, qu'on a ramené et au chef-lieu du territoire et au niveau de la ville de Beni. Tout le monde a salué cette action. Mais ça ne suffit pas parce qu'on n'est pas arrivé à mettre un terme à ces terroristes-là. Et donc pour moi, il ne faudrait pas que lorsqu'on n'a pas trouvé de solution, qu'on croit que c'est plutôt l'autorité qui est responsable de cela. Le niveau de responsabilité, je peux le situer au stade où on n'est pas arrivé à mettre fin à la menace. C'est là où se situe le niveau de responsabilité. Mais la responsabilité de dire c'est l'autorité qui envoie les tueurs aller égorger la population, je crois que la main au cœur, tout le monde doit savoir que ça ne peut se passer dans aucun pays ou dans le cœur d'aucun responsable qui se dit un élu ou qui se dit quelqu'un qui recherche les voies auprès de la population.
Monsieur le gouverneur, nous allons parler déjà des solutions. Il y a par exemple le parti Congo Positif, un parti de la majorité présidentielle, qui a fait des propositions contenues dans une déclaration politique publiée hier à Kinshasa, qui demande par exemple que le gouvernement de la RDC puisse doter toute la population de Beni des armes d'autodéfense personnelle et en contrôler l'usage. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je ne peux pas me prononcer sur une telle allégation parce que je gère une province qui a connu ce genre de politique ou de pratique où on a pensé qu'on donne à la population des armes pour lutter contre l'ennemi, mais ces armes sont restées dans la population et c'est devenu un fléau. Et aujourd'hui, les groupes qui sont décriés, ça et là, les groupes armés, se sont servis ou se sont nourris de cette politique qui avait été adoptée à un moment donné de l'histoire de notre province. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt que nous disions que est-ce que l'armée a les capacités nécessaires pour affronter, est-ce qu'elle a les techniques nécessaires pour le faire. La MONUSCO, à travers sa brigade qui est venue en appui aux forces armées, est-ce qu'elle a les éléments nécessaires pour faire face au terrorisme? Donc je crois que c'est cela l'interrogation que nous devons faire, c'est cela l'évaluation qui doit être faite pour que nous adaptions nos méthodes à la menace qui est en face de nous.
Merci Monsieur le Gouverneur. Général Bernard Comis, il y a pour vous cette réaction que nous allons suivre.
Adoubanga, Dédoné, Chipé, depuis Mahagi, Anitouri. À mon humble avis, si le gouvernement congolais et la communauté internationale sont des complices, ma question est de savoir, primo, à qui cette société civile compte porter plainte pour une solution durable? Secundo, une semaine de ville morte n'est-elle pas aussi trop pour une population qui vit autour du jour? Bref, la solution serait de dénoncer, collaborer avec les forces congolaises d'abord, puis rappeler son rôle. À la fin, interpeller aussi la communauté internationale qui est représentée par la MONUSCO, la République démocratique du Congo, pour, à la fin du compte, appuyer la République démocratique du Congo, étant donné que la communauté internationale, la République démocratique du Congo, bien que pour appuyer le gouvernement et non les remplacer.
Il faut interpeller la communauté internationale représentée par la MONUSCO, général Bernard Comis. Est-ce qu'au niveau de la MONUSCO, vous comprenez aussi cette frustration exprimée par la population qui pense qu'il y a une certaine complicité aussi de la part de la communauté internationale?
Je comprends la frustration des populations, de la population de Béni en particulier dans ces circonstances, et je comprends leur interrogation. Mais je n'irai pas dire, et je ne peux pas dire, et je ne peux pas accepter que l'on dise que la communauté internationale est complice, en aucune manière. Le mandat que nous avons reçu est un mandat qui est très clair. Nous sommes ici pour aider à la stabilité et aider nos partenaires militaires congolais dans les opérations contre les groupes armés. Nous devons le faire avec eux, en étroite coordination avec eux, et nous pouvons aussi le faire de notre propre initiative. Donc, la communauté internationale, je peux vous l'assurer, à travers l'engagement de la MONUSCO, des soldats qui servent sous casque bleu, déploie des efforts considérables pour pouvoir régler ces problèmes et apporter le soutien qui est attendu par les autorités congolaises et par la population congolaise. Nous ne ménageons aucun effort. Mais simplement, je voudrais réagir sur un point qu'a évoqué notre auditeur, sur la coopération avec les forces congolaises et l'appui à la République démocratique du Congo. Lorsqu'on observe la nature de ce groupe et son existence dans cette zone, c'est pas nouveau. On sait qu'il y a des éléments qui sont installés dans cette zone depuis maintenant de très nombreuses années. Une simple observation, je dirais, de militaires. On a bien évidemment affaire à une situation qui est très proche de ce qu'on appelle la guérilla. La guérilla tire ses ressources de la zone où elle vit. La guérilla a des relations, très certainement, avec son environnement.
Et donc, dans la population, ou une partie.
Il y a très probablement des gens qui ont des connexions avec des éléments de cette nature. On ne peut pas imaginer qu'ils vivent dans la jungle et qu'ils n'en sortent que pour aller assassiner des femmes, des enfants et des gens innocents. Et donc là, il y a certainement une réflexion à avoir pour que les liens qui pourraient exister entre ce groupe et certains qui pourraient être tentés de les aider, de les informer, mais que ces liens soient coupés, que ces liens soient cassés, qu'on les identifie. Et là, il y a un travail de fond à faire, pardon, qui n'est pas qu'un travail militaire, mais qu'un travail qui nécessite une approche beaucoup plus globale, je dirais, pour que tous ceux qui sont les victimes, d'une manière ou d'une autre, de ces éléments-là, puissent ensemble identifier les causes de leur violence, pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, quel est leur but, qui les aide. Il y a certainement des gens qui les aident. On ne peut pas imaginer qu'ils ne font que vivre en mangeant des racines dans cette forêt. C'est impossible.
Général Comis, dans votre précédente intervention, vous avez évoqué le fait que parmi les solutions, il faut avoir des forces mieux préparées. Ne faudrait-il pas, en ce moment, revoir la coordination des forces entre la MONUSCO et les FARDC notamment?
Dans les opérations difficiles que nous menons, c'est un élément essentiel de notre travail préparatoire. Avant de lancer une opération, il s'agit de nous assurer que nous travaillons avec nos camarades militaires congolais sur, je dirais, les mêmes références, les mêmes procédures, les mêmes modes de fonctionnement, etc. C'est un travail long que nous avons entrepris il y a quelques semaines avec les hommes du général Bangou, en particulier dans cette zone. C'est un travail qui est quotidien. Nous, la MONUSCO, je le disais tout à l'heure, nous avons identifié qu'il était nécessaire d'avoir des forces spécialement entraînés au combat dans cette zone-là. Actuellement, nous avons...
En plus de la brigade d'intervention.
Non, au sein de la brigade d'intervention, puisque c'est sa mission et c'est sa zone de responsabilité, au sein de la brigade d'intervention, nos partenaires de la SADC ont bien identifié qu'il était nécessaire d'avoir des forces mieux préparées au combat en jungle. Nous avons actuellement des bataillons qui sont en train de rentrer, qui seront remplacés par d'autres bataillons de la SADC. Et donc, l'objectif, c'est que ceux qui nous arrivent soient mieux préparés. Ces rotations sont en cours. On verra à l'usage.
Merci. Professeur Arsène Mouaka, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Boutembo.
Je suis Kakule Mouseke de Boutembo. Les différentes guerres qu'a commis la RDC, celle de l'Est et particulièrement à Beni, semble avoir une connotation spécifique et soulève une série de questions. Nous avons vu comment le gouvernement s'est déployé au Kasaï et comment en peu de temps sa question a été réglée. Il y a bien des cas que nous ne pouvons énumérer ici. Mais pour les cas de Beni, on ne sait pas cette mobilisation. Plusieurs fois, les opérations y ont été lancées, les dialogues sociaux et procès organisés sans parvenir à restaurer la paix. À mon avis, l'inefficacité de ces opérations résulte de la non-application des recommandations. La mission parlementaire a attaqué la société civile et fait des recommandations qui traînent à être mises en œuvre. C'est quand même curieux de voir un groupe armé combattu depuis 4 ans et que l'on présentait il y a peu comme affaibli attaquer une ville semblable à celle de Beni qui est surmédialisée. À 18h30, ceci devrait pousser le commandement des FARDC à repenser ses opérations et ses renseignements aussi que ses stratégies.
Voilà, professeur, il y a une série de propositions. J'ajoute celle de l'honorable Mouindo Nzangi qui a adressé une correspondance au ministre de la Défense. Il lui demande, par exemple, dans ses propositions, d'envisager une opération conjointe avec l'UPDF pour un délai limité, l'armée ougandaise, et puis envisager une guerre par procuration, comblant le déficit, dit-il, des effectifs militaires sur terrain par des unités des forces combattantes, des groupes armés locaux, dont la plupart semblent considérer le tueur de Beni comme ennemi commun, et aussi réouvrir le camp d'entraînement de Nyaleke en pleine zone de combat pour recycler les combattants et les autres jeunes volontaires militaires avant toute autre opération.
Bon, je pense que ce qui est commun à tout le monde, c'est de dire que la solution est militaire. Il n'y a pas une autre solution sur ce dossier-là. Maintenant, chacun y va de sa philosophie, mais moi, je suis d'avis que nous pouvons puiser dans 3 expériences qui ont porté les fruits. La première expérience, c'est l'opération Artemis. Je suis content d'être à côté du général Comines parce que cette opération a été menée par la France au pays. Et ça a été une des opérations qui ont eu à rétablir la paix rapidement en Ituri. Et donc c'est une première formule qui peut être utilisée, qui a déjà été utilisée au niveau de notre pays. La deuxième formule que nous pouvons utiliser, c'est la formule du M23 où on a vu notre armée passer devant, être appuyée sérieusement par la MONUSCO. Et les résultats n'ont pas tardé. Mais à Beni, il y a un souci. On se demande si réellement il y a
une coordination.
Une brigade qui est venue se battre. On n'a que des observateurs. Donc là, ça fait un sérieux problème. Mais on aurait souhaité que l'exploit de Rutshuru soit réédité. Troisième formule, c'est la formule que le général Bauma a eu à démontrer. Il a assiégé l'ennemi, il a localisé, assiégé et autres. Et on a eu la paix pendant un temps jusqu'à sa mort, malheureusement. Et donc, il est possible de puiser dans les expériences qui sont vécues là-bas. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait une place pour les milices. Parce que c'est vrai qu'il y a des Maïmaï, mais je n'ai pas attendu qu'il y ait des Maïmaï qui sont allés attaquer les EDF. J'apprends seulement que les Maïmaï ont attaqué l'armée, et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas prêt à m'embarquer dans des solutions qui vont dans le sens d'armer la population. On a connu toutes ces choses-là. Toute la révolte populaire, on l'a connue. La solution, elle n'est pas loin. Elle est ici, à Kinshasa. On ne trouvera pas la solution à Beni. On ne trouvera pas la solution à New York. Elle est ici, puisque c'est de Kinshasa, du gouvernement central, qu'on peut activer tous les mécanismes et nous amener vers ce qui a ramené la paix ailleurs. Et on peut rééditer ses exploits. Donc voilà pour moi, la solution est militaire et on peut procéder de la sorte.
En évoquant l'exemple la formule utilisée pour le M23, et donc vous revenez sur le problème de la coordination des forces entre la MONUSCO et les FARDC.
Absolument, moi je suis surpris. J'ai suivi le général, il m'a dit que la MONUSCO a combattu et ainsi de suite. Bon, je suis un peu surpris, mais c'est une bonne nouvelle. Mais bon, alors si la MONUSCO était dedans, je pense que ça n'aide pas la MONUSCO. Mais je souhaite qu'à partir de ce qui s'est passé samedi, qu'on puisse repenser pratiquement la collaboration et que notre gouvernement soit sincère. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, il faut laisser les amis venir. Au même moment, s'il y a d'autres initiatives et d'autres pays qui peuvent nous aider, il n'y a pas de souci. Si on peut renforcer les éléments qui se retrouvent sur le terrain, qui se sont détournés de leur mission de combattre et rentrer dans l'observation, je pense que si on peut avoir maintenant les combattants, il n'y a rien là-bas. C'est une affaire de 100 km carrés, là où pratiquement si on se concentre et on cesse de ramener la ligne de front dans la ville et remettre la ligne de front là où se trouve l'ennemi, je ne pense pas qu'on puisse passer 3 mois en train de se battre là-bas. Mais le problème, c'est qu'on est là comme si, on laissait l'initiative à l'ennemi. Que ce soit lui qui détermine ce qui doit être fait. Et cette méthode-là, je pense qu'elle a montré ses limites. Maintenant, il va falloir rentrer dans une redynamisation des opérations. Et le Parlement a fait sa part. Nous avons voté des budgets conséquents. Et nous avons voté des lois.
Vous avez fait des recommandations au gouvernement.
On a fait des recommandations. Le gouvernement doit s'assumer. Et il doit profiter de la présence de ses amis qui ont des chars, ils ont des avions, ils ont des hélicos, ils ont tout. C'est étonnant qu'on voit ces hélicos-là s'envoler du côté de Mai Mai et jamais du côté du parc national de Virunga. Et donc, on aurait souhaité que les choses se passent autrement.
Monsieur le gouverneur, il faut déjà commencer à conclure. Brièvement, vous avez suivi le professeur Arsène Mouaka qui pense que la solution est les militaires.
Je suis le défenseur de la solution militaire depuis le M23, mais comme il l'a si bien dit, lorsque la guerre du M23 a pris fin, nous nous sommes retrouvés à Kampala. Je me rappelle, c'était le 24 novembre 2012 dans une réunion où les chefs d'État ont parlé ouvertement de cette question. Il y a des responsabilités qui ont été établies. Alors moi, je pense qu'au niveau de la question des ADF, on a souvent oublié de chercher à connaître l'auteur ou les auteurs intellectuels qui planifient effectivement ces massacres, c'est-à-dire à qui profitent ces crimes. Je m'interroge pourquoi, parce que à chaque fois qu'il y a des moments phares, on assiste à des massacres. Et à un moment donné, nous sommes retrouvés à Beni, les chefs de l'État y est, il y a massacre. Les chefs d'état-major arrivent, il y a massacre.
Monsieur le gouverneur.
Aujourd'hui, le chef de l'État est aux Nations Unies, il y a massacre.
Monsieur le gouverneur, je m'excuse, on n'aura pas le temps de refaire toute l'histoire, mais il faut déjà conclure. Pouvez-vous adresser un mot à la population de Beni qui vous suit en ce moment en Swahili?
Oui, pour la population de Beni Nawambia, ni kweli tuko ndani ya shida. Alakini, hivi tumekuwa ndani ya shida. Si kuingia barabarani, si kubomola manyumba ama kuunguza, ndio tatuletea suluhisho. Nawaza tuunge mkono jeshi la kwetu, tuunge mkono jeshi la Monisco, na tujiulize ni nani ambaye anapata faida katika mauaji ya Beni. Kwa sababu tusiwe tunapelekewa umbalimbali na mambo ambayo tunapaswa kuelewa. Ni nani ambaye anafaidika katika hii mauaji ya Beni?
Merci, Monsieur le Gouverneur. Général Bernard Comis, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce moment à cette population de Beni qui est en train de vous suivre pour l'apaiser de la part de la MONUSCO?
Je dis à cette population que nous sommes présents, nous sommes là pour la protéger, nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à assurer leur protection, pour continuer à mettre fin aux agissements de ces groupes violents, nuisibles, mais que cela ne peut se faire que avec leur aide aussi. Comme je le disais tout à l'heure, il faut nous donner l'information, il faut aussi donner à nos camarades militaires et à ceux qui sont en charge de la sécurité de ce pays les informations qui permettront d'arrêter ceux qui ont des relations avec ces groupes armés et avec ces assassins.
Merci. Professeur Arsène Mouaka, conclusion.
Oui, je pense que l'État est arrivé que pour toutes les forces sociales de Beni s'associent pour dénoncer et souhaiter que les choses aillent, que tous les nationalistes, que les amis de la communauté internationale dénoncent le drame qui est en train de se passer à Beni et que notre gouvernement s'assume.
Peut-on déjà parler de génocide, professeur Mouaka?
J'ai difficile à utiliser de gros mots, mais ce que nous cherchons, c'est la paix.
Bonne suite des programmes, mesdames et messieurs, sur la radio de la paix. Cette émission est terminée. Merci de votre attention. Au revoir.